Paolo della Danza Gogo Radio Esperanza.
Débat sur Radio Esperanza. Débat.
Au départ, Internet est une fabuleuse idée de liberté, un outil de rapprochement des gens, des peuples et des cultures, si ce n'est pas beau. Un libre accès à tous les savoirs, un partage sans limite. Mais bien vite, des entreprises se sont emparées de la technologie à des fins mercantiles. Nous sommes plus propriétaires de nos données et même de notre vie privée. Pourtant, indéniablement, Internet est un vecteur d'idées. Comment revenir à un usage moins mercantile où nous pourrions rester maîtres de nos actes, de nos publications? Est-ce possible? Et si Internet était à la base de la révolution mondiale, de la nouvelle révolution mondiale, au-delà des surveillances et de la censure des États? Comment récupérer notre propre liberté individuelle? Internet, un outil de liberté ou un enchaînement dans un univers carcéral virtuel? Ce sera les questions du jour. Un tout autre Internet est possible avec autour de la table Manon pour m'accompagner dans ce débat. Bonjour Manon.
Bonjour Déborah, bonjour à tous.
Et dans nos invités, eh bien Camille, Fredux et Fred. Fred qui, on prend le dernier Fred de Radio Esperanza. On parlera. On est très internet, hein, Radio Esperanza.
Tout à fait.
Mais libre.
Esperanza.be d'ailleurs même que.
Radio.
Radio Esperanza.be.
Voilà, ça si on veut écouter Radio Esperanza.be effectivement.
Et alors Fredux et Camille, vous venez d'où? Vous faites quoi?
Eh bien, moi, je viens juste d'arriver à Bruxelles. J'étais en France avant et je suis arrivé à Bruxelles. Et très rapidement, j'ai été dans une association qui fait du fournisseur d'accès à Internet associatif. Et donc, voilà.
Mmh. Ah bah, pour ma part, je suis un des animateurs et administrateurs du BXLUG. Donc, un LUG est un Linux User Group, un groupe d'utilisateurs de logiciels libres, un fameux Linux dont on parle souvent. Et donc, sur...
Jean-Mi pour la ligne 4.
C'est important, il faut le savoir, effectivement. Et voilà, donc je suis actif dans le monde du logiciel libre, qui fait effectivement la promotion d'une autre façon de maîtriser sa machine avant qu'elle ne nous méprise.
Alors voilà, donc des aficionados du logiciel libre. Alors, mon intro tarte à la crème sur Internet, vous êtes d'accord ou
Ouais, plutôt pas mal.
Tarte à la crème quand même, là.
Oui, quand même, mais bon, on est aussi là pour ça. ouais, plutôt pas mal, l'Internet comme révolution, comme vecteur de changement, bah, nous, c'est ce à quoi on croit, que ce soit Internet et le logiciel libre de manière générale. Donc ouais, on est là pour ça, donc c'est tarte à la crème, mais c'est pas... si loin de la réalité avec ces deux pans où il y a cette histoire de vie privée et de liberté. Donc nous, on essaie de travailler autour des deux.
Alors est-ce qu'au départ, Internet, on imaginait que ça aurait une telle ampleur? Donc il faut savoir que Internet, on en parle quand même depuis, enfin on ne l'appelait pas comme ça je suppose, on en parle depuis les années 50 où l'idée était de pouvoir connecter, enfin que des ordinateurs puissent communiquer entre eux, enfin avec des gens quand même derrière. Donc des gens qui utilisent des ordinateurs qui pourraient être connectés entre eux, une idée qui se développe petit à petit durant les années 60-70, on en arrive dans les années 90 au fameux World Wide Web, donc le réseau des réseaux, puis en l'an 2000, explosion de la bulle Internet, j'ai lu les chiffres, 368 540 000 ordinateurs connectés. Mmh. Alors, je ne sais pas si vous, au niveau d'Internet, si vous avez, quelle est un peu l'histoire. Bon, au départ, c'est à des fins militaires, j'imagine. C'est pas sûr.
Oui.
Disons que à des fins militaires, c'était l'idée de départ. C'est comme ça aussi qu'Internet, enfin, que les recherches sur Internet ont été faites. C'était de l'argent militaire. Donc ça s'appelait ARPANET. Et en fait, ça a été très vite détourné par les universitaires, qui étaient qui étaient pour beaucoup des hippies. Il y avait les hippies et les chercheurs, donc les chercheurs qui travaillaient vraiment sur la technique, et les hippies qui se disaient qu'on pourrait communiquer avec tout le monde. Et c'est aussi pour ça que... c'est comme ça qu'Internet a été créé. Il y a eu cet aspect très technique universitaire, et à la fois cette utopie de pouvoir faire communiquer tout le monde les uns avec les autres.
Alors utopie, finalement c'était pas une utopie.
Ah non, ça a plutôt bien marché. Non, ça a clairement plutôt bien marché. Effectivement, on peut discuter sur Internet avec, avec des gens de l'autre bout du monde. Après, c'est aussi y a des problèmes d'accès à Internet dans certains pays. Mais effectivement, dans l'idée, on peut discuter avec tout le monde.
Dans l'idée, on peut.
Mmh. Oui, et puis, c'est vrai que cette technologie de guerre, au départ, non. C'est vrai que si entre Bruxelles et Namur, il n'y a que la 411, mais que... Le pont est cassé, on ne s'est plus passé, donc il fallait au moins la Nationale 4. Hein, on pouvait toujours encore trouver une autre façon de relier deux points, deux villes, deux ordis. Et c'est quand même surprenant que le militaire ait rendu ça dans le domaine civil.
Hein. Oui, mais c'est ça, parce qu'en fait, moi ce que j'ai lu, c'est que c'était en 1962, l'US Air Force demande à des chercheurs de pouvoir trouver un système de communication qui résisterait à une attaque nucléaire. Mmh.
C'est effectivement ce qu'on appelle l'idée de résilience. Résilience du réseau, c'est-à-dire que si deux ordinateurs ne peuvent pas communiquer directement entre eux, ils vont pouvoir prendre un autre chemin. C'est vraiment comme une carte routière, il y aura des déviations, mais ils pourront toujours communiquer ensemble. Et je dis des ordinateurs, c'est un abus de langage parce que c'est des gens en fait. Moi j'utilise très peu le terme IRL, In Real Life. Moi j'utilise plus le terme AFK, Away From Keyboard.
Attends, c'est là j'ai rien compris.
en fait, in real life, ça veut dire qu'on se voit en vrai dans le monde.
Comme l'avait dans là.
Autour ouais, voilà. Avec des micros.
Tout vivant, enfin, ouais. Truc classique quoi.
Ouais, on peut utiliser le meat space aussi, le monde de la viande.
Pour une végétarienne, c'est un peu rude.
Ouais, mais bon.
D'accord.
On est quand même de la viande.
Oui, non, oui.
Tu vois. Et je ne sais plus du coup où je
oui,
voulais
donc
en venir.
Vous n'utilisez pas.
Enfin, moi, je l'utilise. Mais... AFK, Away ouais. From Keyboard. C'est loin du clavier, donc on est loin d'ordinateur. Et du coup, on se voit là encore dans la vie réelle, mais sans clavier entre nous.
Mais Internet, c'est la vie réelle aussi.
Tout à fait, c'est pour ça que je ne l'utilise pas, moi.
Je voulais juste.
Leslie aussi est parmi nous.
Oui. Bonjour à tous. J'ai visionné hier Pirate Bay sur le téléchargement illégal et c'est un de mes moments préférés du film. C'est la petite anecdote justement par rapport à AFK. C'est que le juge se croit très, très bien, c'est le procureur qui dit. Il est hype en disant IRL et un des hackers lui dit simplement on n'utilise plus ce terme. C'est complètement comme s'il était des lustres et des années-lumière en rien. Parce qu'il considère que Internet est la vraie vie. Donc il n'y a pas de dissociation entre in real life et la vie dans les internets.
Mais donc aujourd'hui, encore une vie réelle et une vie sur Internet où tout est un peu mélangé.
Disons que ce qu'on en arrive aussi sur Internet à se dédoubler, c'est que on a un système d'alias, de nicknames, de pseudonymes. On ne s'affiche pas officiellement. C'est une question entre guillemets de sécurité personnelle. On a une double vie.
Autant ça a mené, ça a été un composant important pendant très longtemps, autant récemment, les Facebook, les Google Plus imposent de plus en plus l'utilisation du vrai nom de la personne, ce qui pose un tas de problèmes pratiques pour certaines personnes qui n'ont pas nécessairement de vrai nom de carte d'identité qu'ils utilisent, mais surtout qui obligent tout un chacun à s'identifier à une identité unique qui est la même que celle qu'il utilise quand il n'est pas devant son ordinateur. Et ça, c'est pas une composante d'Internet, c'est les fournisseurs de services Google, Facebook qui imposent ça. Et ça vient de plus en plus, et de plus en plus, voilà, cette possibilité de dédoublement disparaît.
Oui, et surtout, bel anniversaire, non ? Je crois que c'est hier ou avant-hier que vient de sortir des laboratoires de Microsoft le fameux Windows 10. Et ils disent que les gens, finalement, leur mot de passe qu'ils oublient souvent ou qui est le même pour divers services, banques, etc., c'est quand même risqué, c'est pas sécurité. Et ils mettent au point donc leur système FIDO, je crois, donc c'est l'Iris. La biométrie va servir en fait de mot de passe maintenant. Et c'est pour corroborer ce que disait Frédéric juste avant, c'est vrai que cette obligation d'être soi-même maintenant, en plus de son nom, on va avoir bon, déjà les empreintes digitales, ça c'était connu, il y a des ordis qui s'ouvrent avec les empreintes digitales, mais maintenant la biométrie va devenir de plus en plus évidente.
Naïvement, dans quel intérêt ?
Et pour comme disait Fred, c'est... Les gens oublient leur mot de passe, c'est compliqué. Alors que simplement, allumer ton téléphone ou la webcam et qu'ils reconnaissent ta tête, et, oh ben c'est bon, c'est bien Manon qui est devant l'ordinateur. J'ouvre la session, c'est super pratique.
Avec un ordi, on peut écrire, dessiner, enfin fabriquer des choses personnelles que l'on n'a pas envie de voir entre des mains ou les yeux d'autres personnes. Hein. Un peu de confidentialité, de vie secrète dans un ordi. Et donc, il faut être sûr que la personne qui ouvre cet ordinateur est bien la bonne. Et donc, pour être sûr que c'est la bonne, il y a des choses qui ne bougent pas, les paramètres visage ou de l'iris. Enfin, voilà. Microsoft a maintenant tout ça en route.
Mais ça fait un peu peur quand même.
Ah oui et non, parce qu'on va dire que d'un côté, c'est le progrès. De deux, on ne doit plus s'embêter à retenir des mots de passe 1, 2, 3, 4 ou password, hein, les trucs classiques. Et donc voilà, on aura une vie de plus en plus secrète. L'inconvénient, c'est que bon, Microsoft propose aussi de faire un énorme backup, hein, une sauvegarde. Hein, donc de pouvoir avoir un clone de son disque dur. Si on perd le disque dur, les données sont chez Microsoft avec un mot de passe aussi.
Oui, parce que vie secrète, mais aussi complètement transparente. S'appeler Manon ou avoir mille et un pseudo, ça change quand même un peu la donne dans la traçabilité de mes activités sur le net.
Exactement. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir vite déceler les vrais affreux terroristes. Il y a toujours la sécurité planétaire maximale que bon, Microsoft prend évidemment fort à cœur, en deux mots. Et c'est affreux, effectivement, de se dire qu'on va devoir être totalement transparent. Et si on recoupe ça avec le fait que Facebook a racheté une société qui était spécialisée en biométrie, justement, et qui permet à ce moment-là de retrouver les photos qu'on poste sur Facebook. On peut les taguer, les nommer, voilà, hein, c'était sur la plage.
C'était à Radio Esperanza.
Radio Esperanza, voilà, il y avait Leslie, Manon, Déborah... Et donc, Facebook peut retrouver des visages dans d'autres photos et les retaguer aussi. Donc, ça devient effectivement très troublant en termes d'anonymat, oui, voilà, quelque chose comme ça.
Merci Sylvain.
Et donc, surtout que ces données doivent être stockées quelque part. Bon, maintenant, en l'occurrence, c'est chez Microsoft, ça tombe bien.
Ça tombe bien. Tout est sécurisé là-bas, c'est sûr. Non, mais voilà, mais alors, d'une idée d'un Internet, on n'imaginait pas ça au début. Qu'est-ce qui a créé ce basculement vers quelque chose de... Je disais mercantile dans l'intro, mais dans d'un premier abord, on voit pas ça. On voit plutôt de gros trucs qui gardent nos données... Qu'est-ce qui a basculé à un moment ?
Non, mais c'est. Enfin, plutôt qu'une bascule, c'est juste un changement un peu lent. Enfin, il y a. En 95, 96, 97, je ne sais plus. Enfin, il y avait un manifeste pour le web indépendant, déjà qui s'offusquait d'une arrivée d'acteurs commerciaux, tout ça. Enfin, bref, donc c'est pas neuf, mais c'est de plus en plus prégnant et pratique. Des gens changent parce que sont poussées certaines pratiques, voilà. Enfin, s'il y a pas telle fonctionnalité dans Facebook ou si tout le monde utilise Facebook, les gens sont motivés à l'utiliser aussi, etc., etc. Enfin, voilà. Enfin, et
il y a eu aussi des histoires très pragmatiques aussi pour lequel on est arrivé là. C'est effectivement l'arrivée des entreprises privées qui, pour développer leurs services, avaient besoin d'argent. Donc, au départ, ça a été la pub. Donc il y a eu de plus en plus de pubs et les utilisateurs étaient de moins en moins contents. Donc on s'est dit, bon, ils se sont dit, on va mettre moins de pubs, par contre on va récupérer des données personnelles pour les vendre et faire le business comme ça. Donc c'est un glissement capitaliste de Internet qui était à la base plutôt... altermondialiste, en tout cas, qui crée ce genre de choses.
Mais, alors, oui, c'est-à-dire pour une certaine génération, c'est vrai qu'on a eu la chance de connaître Internet sans pub, comme on a pu connaître aussi la RTBF sans publicité. Voilà, mais c'est vrai que les générations qui arrivent là maintenant dans ce monde d'Internet, bah, c'est clair que c'est d'abord un truc commercial, c'est un business plan, entre guillemets, Internet. Et on est un peu loin de la circulation des infos, des idées, de la recherche entre universités et la communication interpersonnelle. C'est, voilà, si c'est gratuit, c'est que c'est l'utilisateur qui est le produit. Des petites choses dans le genre. Et voilà, c'est le business. Enfin, le capitalisme va jusque dans les petits câbles, les RJ45 qui relient tous ces ordinateurs entre eux.
Mais il y a encore des poches de résistance. Je pense à, je sais pas, Wikipédia pourrait en être une. Mmh. Un espace de partage sans pub.
Là, effectivement, on est en train de dresser un portrait noir d'Internet qui devient... Enfin, voilà. On fait ce constat-là. Maintenant, effectivement, il y a Wikipédia qui est une encyclopédie libre où tout le monde peut contribuer, qui est un modèle économique dont je ne connais pas tout à fait les détails.
C'est tout autre chose.
mais pas n'importe quoi.
Voilà. Mais quoi, alors ?
Non, mais, ouais, non, mais c'est une fondation qui marche grâce à des dons, grâce à pas mal de bénévoles qui aident sur des questions techniques, et grâce à pas mal de bénévoles qui rédigent des articles. Enfin, voilà, c'est...
Ouais, mais là, on est effectivement dans une toute autre économie.
C'est une très grosse affaire. Mais pour répondre à ta question, oui, des poches de résistance, mais c'est simplement des pratiques qui ne sont pas des pratiques commerciales. Oui, elles continuent à exister. Et donc, que ce soit Wikipédia ou que ce soit le logiciel libre, les logiciels libres de manière large, que ce soit des OpenStreetMap de partage de données géographiques, que ce soit plein de petits projets à des petites échelles ou des grands projets. Parce que Wikipédia, c'est énorme. Mais tout ça existe. Et même travail de continuer à partager un lien, c'est continuer à s'échanger des liens, même dans un groupe Facebook ou que sais-je, ça continue de pratiques qui sont pas là pour des questions d'argent. Enfin, il reste des gens, il reste pas que des entreprises. Quoi.
Oui, il y a plus de gens que d'entreprises. Il y a plus de gens que d'entreprises sur Internet. Donc effectivement, on peut utiliser Facebook pour mettre ses photos de vacances, publier ses humeurs, etc. On peut aussi ouvrir un site Internet sans passer par Facebook et avoir son espace à soi, pas celui de tout, pas celui à Facebook. Mm-hmm. Donc il y a plein de poches de résistance, il y a plein de possibilités. Nous, c'est ce qu'on fait essentiellement dans ce milieu-là, associatif ou autre, même individuel. On organise aussi des petites poches de résistance, des petites solutions techniques qui sont finalement assez simples pour d'autres utilisateurs qui n'y connaissent rien. On essaie de démocratiser aussi tout ça pour qu'on... Je vais parler comme un vieux, parce qu'en plus, je ne suis pas si vieux ça, je n'ai pas connu cet Internet-là, mais pour retrouver l'Internet du début où c'est un vrai lieu d'échange et pas squatté par des entreprises privées. Hein.
Et ça se traduit comment ? Qu'est-ce que... Oui. On assiste, je passe une après-midi avec vous et je dis voilà, moi j'ai envie de reconfigurer mon ordinateur de manière à ce qu'il soit libéré de toute cette publicité.
Un passage important qui était posé là, c'est de rendre l'affaire plus simple. Parce que si ce n'est pas déjà le cas, que chacun ait son site internet sur son propre serveur... autogérer tout ça, c'est aussi parce que c'est compliqué.
C'est une
par rapport à un truc où il y a juste à aller sur un site et c'est pré-mâché.
Mais ça va plus loin que ça, parce que finalement, on peut se créer un site. C'est pas si compliqué, enfin, il sera pas très joli.
C'est pas si compliqué.
Mais je veux dire, s'il y a Facebook, s'il y a Twitter, s'il y a toutes ces... Il y en a d'autres. Il y a Google+, il y a je sais pas quoi. Bref, c'est que là... on touche directement des gens qu'on connaît. Enfin, ça s'appelle un réseau social.
Oui, tout à fait.
Qu'on n'a peut-être pas avec un site.
Moi j'ai eu cette expérience-là.
Tu sais pas, c'est une question. Oui.
J'ai eu effectivement cette expérience-là où j'ai quitté Facebook. Donc
et
avec. Ouais, super. Et franchement, je pensais manquer, et pas du tout.
T'as moins d'amis quand même.
Ouais, et c'est là l'effet de bord auquel je voulais venir, c'est que les gens ne savent plus comment communiquer avec moi. Il y a 5 ou 6 solutions pour communiquer avec moi, mais les gens, t'es pas sur Facebook, on peut pas communiquer avec toi. J'ai un mail, j'ai un numéro de téléphone, j'ai un site. Je sais au maximum de promouvoir des solutions faciles d'accès pour mes amis. Là, ça commence à arriver sur certains sites internet. Je peux communiquer de manière chiffrée, de manière relativement facile avec des amis, juste en leur envoyant un lien. Mais c'est vrai que c'est cet effet de bord-là, donc c'est pas facile. C'est C'est pas facile, mais on y arrive. Et le fait de rentrer dans une association, c'est aussi apprendre aux amis ou à des gens qui ne sont pas nos amis à communiquer plus facilement.
Et sans tous les outils qu'on connaît qui sont aux mains de grosses entreprises. Là, je veux dire, tout ce qu'on a sur un ordi
à nouveau, c'est...
est différent dans votre système.
Tu ne peux pas changer tout du jour au lendemain. Enfin, en tout cas, certaines personnes pensent que tu ne peux pas. Mmh. Mais une manière de faire, c'est de ne pas changer tout du jour au lendemain. Et donc, tu peux, à la place d'envoyer ton invitation pour la soirée que tu organises uniquement par Facebook, tu fais un mail en même temps. Et voilà, c'est déjà un pas. Après, ce mail, à la place d'écrire depuis ton compte Gmail, tu l'écris depuis un serveur autogéré par une asso, etc. C'est un autre pas. Mmh. Enfin, tu peux avancer comme ça. Enfin, et je pense pas nécessaire de tout faire d'un coup. Et puis on reformate ton ordinateur, on met un Linux dessus, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire.
Et ça, c'est Fredux qui s'occupe de ça.
Oui, voilà. Si vous venez à Esperanza, dans le village des possibles, il y a le conteneur d'Abeli, association belge de libération du livre. Quelque chose dans le genre. Et donc voilà, c'est vrai qu'on peut en discuter là. Mais c'est vrai que si on revient un peu à l'historique des machines, on était dans une économie de partage dans les années 60-50 par là, parce que les machines étaient toutes un peu bizarres et les programmeurs avaient écrit du code sur leur machine et le donnaient à un copain-collègue pour l'essayer sur sa machine et voir comment ça fonctionnait. Et donc c'est vrai que le monde des machines s'est un peu uniformisé. Donc on va dire merci Microsoft, parce qu'il a fait passer les ordi comme on achetait un grille-pain ou un sèche-cheveux. Les gens sont équipés, donc personal computer, PC. Et donc ça s'est privatisé, l'économie libérale s'est incrustée là-dedans. Mais effectivement, on peut revenir à l'économie de partage et d'être dans des partages de connaissances et déjà de savoir que son ordinateur, le premier truc qui va le faire tourner, un système d'exploitation, eh ben, il est propriétaire. Il appartient à une société cotée en bourse, que ce soit Apple ou que ce soit Microsoft. Et on peut faire tourner un ordinateur, avoir les mêmes fonctionnalités qu'avec du payant et propriétaire, en passant donc dans le monde du logiciel libre et qui, lui, fonctionnera plus sur l'économie de partage. Un truc qui n'est pas coté en bourse.
Avec n'importe quel appareil. Si on arrive avec son iPhone
Et l'iPhone, c'est encore pire parce que c'est la même société qui fabrique et le matériel et le logiciel. Alors avec les iPhones, c'est...
Les iPhones, les smartphones, de manière générale, c'est vraiment une très très grosse galère en termes de respect de vie privée et intrusion possible. Mmh. Et
non, mais ce que je veux dire,
je n'aurais pas d'autre conseil que de jeter.
De jeter par terre. Si un festivalier vient avec son iPhone au village des possibles, à ton stand.
On fait des animations ou on le jette dans la cendre.
Je propose peut-être de passer à une petite pause musicale, parce que comme d'habitude, et bien dans les débats, on s'emballe, et bien là, il faut un peu déballer.
Super. Et du coup, pour le premier morceau de. Voilà, je vous laisse en compagnie de Fada Freddy qui ouvrira le festival à 16h côté cours.
Dans une heure.
Voilà, donc le festival vient d'ouvrir ses portes, il me semble, il est 15h. Et donc vous avez une heure pour monter jusqu'à la scène côté jardin pour retrouver Fada Freddy. Et là, je vous laisse en compagnie du morceau Letter to the Lord. I wrote a letter to the Lord, begging him to send the chords that would make you stay by my side. He sends an A minor groove, just as you like it, something smooth that doesn't hurt at all. Here comes a major in all its glory. Forgive the failure, says I'm sorry. Send the lines, but he said no. I didn't ask why. I took a pen and let it down. I wrote a love song, make it yours. Take all the pieces, there's nothing wrong. It's no poetry, no symphony, but these are my words. These are my lines. This is my prayer. Still holds the perfume of my sin. I try to take it off so many times.
I know this is my very last chance. No mercy, no kindness, no defense. I hope it comes naturally. Here comes the major in all its glory. Forgive the failure, say I'm sorry. Ask if he could send the lines, but he said no. I didn't ask why. I took a pen and let it down.
Fada Freddy qui sera sur scène d'ici un peu moins d'une heure maintenant sur la scène Côté Jardin à Esperanza ce vendredi 31 juillet. Et donc là on revient sur Radio Esperanza avec le débat sur un tout autre internet est possible. Et donc on a déjà parlé en gros, de l'histoire d'internet, de comment ça a basculé tout doucement vers un côté assez financier avec des grosses entreprises qui gèrent tout ça. Alors, j'avais une question là tout à l'heure, elle me revient dans la tête et je vais la poser, sinon je ne vais pas savoir dormir ce soir. C'est, le pire aussi avec Internet quand même, c'est qu'on se retrouve avec quelques sociétés qui ont tout en main. C'est pas beaucoup
c'est,
de...
C'est pas avec Internet, c'est avec le capitalisme.
Oui, mais bon... On parle d'un... Oui, c'est oui, en général.
La nourriture, c'est pareil. Enfin, voilà, donc,
oui, voilà,
c'est
mais donc
les mêmes dynamiques.
C'est les mêmes dynamiques. On retrouve la même chose. Il y a quoi? Il y a Microsoft, il y a Google, il y a Apple.
C'est Facebook et Amazon.
Facebook, c'est encore tout seul.
Les quatre méchants du jour, c'est Google, Apple, Facebook et Amazon.
C'est les Monsanto de la vie réelle, en fait.
C'est Monsanto du net. Ouais. Voilà, mais c'est vrai qu'on est dans un modèle économique particulier. Celui du monopole, et donc les sociétés se font racheter, on arrive à quelque chose d'assez horrible. Et surtout que si c'est financé par la publicité, les grosses boîtes généralement rachètent aussi des boîtes de marketing et qui disposent maintenant de moyens, de cookies qui sont déposés par des sites internet et qui sont collectés, recroisés, etc. dans le but de vous trouver la publicité la plus adaptée à vos envies ou besoins. Parce qu'ils croient que vous allez cliquer dessus et l'acheter. Voilà, donc c'est vrai qu'on est dans une espèce de délire économique.
Parfois, ils se plantent, alors c'est très rigolo. Mm-hmm. Oui, on m'a suggéré sur Facebook de liker la page de Marine Le Pen. Mm-hmm. Je crois qu'ils n'ont pas tout compris, alors.
Non, mais
il va y avoir un bug.
Mais parfois, ils visent juste à un point où ça en est flippant. Enfin, il y a des histoires de...
Ah, mais c'était flippant, hein, je t'avoue.
Oui, mais non, mais il y a des histoires réelles où, voilà, où la fille se découvre enceinte. Et sous son écran, voit apparaître déjà plein d'articles de publicité en rapport avec le fait d'être enceinte, se retrouve recevoir par la poste du courrier
en rapport.
Tout ça. Et avant même que, je ne sais pas si c'était... Elle vivait encore chez ses parents, je ne sais plus quelle histoire. Mais avant même qu'elle ait pu dire... annoncer la chose à ses parents, c'est l'intrusion publicitaire par la vie réelle de la boîte, de la boîte aux lettres, qui révèle ça à sa mère, quoi. C'est quand même terrible.
Bah oui, mais c'est mais alors donc du coup, ne donner, il y a rien de qui est secret, qui est à nous encore, comment garder
de moins en moins. Effectivement, je crois que c'est monsieur Mark Zuckerberg lui-même, donc le président directeur général de Facebook, pour, voilà, on sait qui monsieur Zuckerberg, qui a dit que la notion de vie privée était quelque chose d'un peu dépassé.
Et je vais revenir sur cette question de vie privée. Et il y a eu un bouquin aussi de Jean-Marc Manac qui était « La vie privée, un problème de vieux con », où effectivement il exposait que, enfin il disait que effectivement c'était plutôt au niveau des adolescents. Les adolescents exposaient énormément de leur vie intime sur Facebook, etc. Mais ils choisissaient aussi ce qu'ils publiaient et ce qu'ils ne publiaient pas. Ils publiaient énormément de choses super personnelles, mais il y en a d'autres qu'ils n'auraient jamais révélées. Donc finalement, la vie privée, c'est aussi décentrer... les frontières de la vie privée ont été modifiées par Facebook. Et du coup, mais il en reste quand même. Ça existera toujours, la vie privée, je pense. En tout cas, l'intimité existera toujours. Maintenant, effectivement, les frontières commencent à être un peu angoissant, quand même.
Et ça a des incidences sur les comportements qui sont parfois très très bizarres. Enfin, sur un site où tu peux, par exemple, annoncer les livres que tu lis, et voilà, enfin, qu'il y a un truc, enfin, un réseau social de personnes qui lisent, ce qui est quand même des livres.
Oui, des livres, des vrais livres.
C'est plus dur. Et voilà, mais donc un ami sur un tel réseau social me dit, mais bref, là-dedans je publie les romans, la fiction, mais pas les bouquins, les essais politiques, pour éviter un traçage de catalogage. Mais donc du coup, se joue en reflet le fait que les livres les plus lus apparaissent, c'est nécessairement des fictions, parce qu'un bouquin politique, les gens ne l'annoncent pas. Et donc le truc s'entretient, les meilleurs ventes, des trucs qui sont mis en évidence sont ces bouquins de fiction consensuels, parce que ce qui n'est pas consensuel, on l'annonce pas. Et ça, enfin, la culture s'appauvrit comme ça vers un truc tout mou, quoi.
Mais oui, mais à côté de ça, enfin, ton pote, il a réfléchi comme ça, mais est-ce que tout le monde réfléchit comme ça?
Ben non,
moi j'ai été publié sur Facebook quand même, que j'avais lu C'est quoi l'anarchie?
Oui, mais ouais, mais moi aussi. Enfin, pas sur Facebook.
Ça m'amuse plus quand même que de noter que j'ai lu La petite maison dans la prairie, quoi.
Oui, mais malgré tout, enfin, la protection par rapport à ces données, quand on en est un peu conscient, on va essayer de se créer un personnage par ce qu'on annonce.
Mais finalement, on parlait de Facebook, on parlait de vie privée, de vie intime. Avant Facebook, il y avait déjà les blogs qui existaient ou qui étaient de véritables, enfin qui sont toujours, hein, mais peut-être moins usités suite à Facebook, à l'arrivée massive de Facebook, mais qui étaient déjà des sortes de journaux intimes en ligne. Facebook n'a rien inventé, en gros, quand même.
Non, disons qu'il a rien inventé, mais il a récupéré tous les petits blogs épars et les a mis dans un même site. Mais ouais, je sais plus où est-ce que je voulais en venir, cela dit.
Et il en a fait un modèle commercial aussi, parce que j'ai pas le souvenir sur les blogs de notre adolescence que c'était
blog
bourré de pubs, ou que tu venais d'aller voir un site de fringues et que t'allais sur le blog de ton pote et t'avais exactement la robe que tu voulais qui apparaissait sans publicité. J'ai pas de souvenir là, mais je consommais pas les blogs à fond.
Voilà, mais bon, il y avait des hébergeurs de blogs qui jouaient plus ou moins la carte libérale, capitaliste ou effectivement secteur non marchand. Voilà, fallait bien choisir son hébergeur de blog. Et là, on en avait effectivement une possibilité de s'exprimer et de dire « coucou, j'existe ». Et c'est vrai que là, maintenant, Facebook, ça devient le couple parfait. Enfin, tu vois, il y a des, comme les sadomaso, c'est des couples qui fonctionnent parfaitement bien. Ben, les exhibitionnistes et les voyeurs aussi. Je pense que Facebook, c'est
un bon... Oui, ils les rassemblent, en fait. C'est un club échangiste.
Ben oui, parce que la première chose qu'on fait, enfin, quand on s'inscrit sur Facebook, c'est aller voir si on trouve des potes et aller voir ce qu'ils ont posté, écrit, nanani, nanana. Donc, on en revient un peu au bon vieux temps où on se baissait un petit peu et on regardait par le trou de la serrure la chaîne des parents, quoi.
Mais tu as aussi sur Facebook quand même cet aspect partage d'informations, d'événements, de connaissances, qui est aussi l'essence d'Internet. On n'avait peut-être pas besoin de Facebook pour ça, hein, on pouvait continuer comme avant, mais tu as aussi tout un aspect mobilisateur qui est énorme.
C'est vrai que ça marche. De fait, ça remplace un mail, parce qu'il fallait cliquer sur reply ou répondre à tous. Là, effectivement, en termes de communication, ça marche. Mais il y a d'autres moteurs de réseaux sociaux avec Facebook pour des raisons libérales. Je prononce le mot chaussure. Peut-être 8 personnes sur 10 va imaginer Nike. Voilà. Enfin, on en est aussi à l'idée
de la... Zalando.
Ah oui, voilà, ça aussi. Voilà, enfin, donc, l'idée de la pensée unique, dont on se méfiait, entre guillemets, il y a 20-30 ans, on est en plein dedans maintenant. Et donc, les idées monopolistiques deviennent effectivement évidentes, mais Diaspora est un moteur de réseau social, pareil, qui est décentralisé, qui consomme moins d'électricité, de fait, et qui laisse les utilisateurs propriétaires de leurs photos.
Okay.
Ce que Facebook ne fait pas. Quand on se clique chez eux, pour des raisons que j'ignore encore, mais Facebook va, c'est écrit, hein, donc le contrat qu'on doit cocher en dessous, j'accepte, mais Facebook va rester propriétaire de tout ce qu'on poste chez eux.
Et quand tu supprimes ton compte, il les garde quand même. Ouais. Donc c'est marqué dans les CGU, conditions générales d'utilisation, on gardera vos données pendant un temps raisonnable. Ouais, enfin, raisonnable à voir. C'est une nouvelle limite juridique. Je sais pas trop, mais donc ils vont les garder à peu près autant de temps qu'ils veulent.
Oui, et puis et bon, c'est parce que je sais que le gouvernement canadien a tenté des procès à Facebook pour non-respect de la vie privée. Et Facebook dit, mais attendez, nous on fonctionne sur le droit irlandais, parce qu'ils ont mis leur QG. Voilà. Donc en tant que Belge, si on veut intenter un procès pour récupérer par exemple toutes ces photos, il faut aller ouvrir la procédure dans une cour en Irlande. Parce que Facebook dit non, nous...
Moi, j'ai fait une chose très rigolote à propos de Facebook quand je l'ai quitté. Il y a un paramètre qu'on peut faire pour récupérer toutes ces publications et les avoir dans un petit fichier. Un fichier avec toutes ses publications. Et donc, il les garde quand même, mais il t'envoie une copie. Donc, j'ai regardé ça, et en fait, tu tombes sur des discussions de messagerie instantanée privée, enfin, semi-privée. Moi, j'avais ouvert en 2007, et revoir ces conversations en 2007, c'est super bizarre.
Mais il y avait eu ça, il y a quelques temps, justement, c'était Facebook, il y avait eu un... Petit souci, c'est que quand on allait voir sur le mur de n'importe qui les archives, donc on allait justement, par exemple, en 2007, là où tout le monde quasi s'est inscrit en 2007 sur Facebook, eh bien on tombait sur des... Donc n'importe qui pouvait tomber sur des discussions de messagerie privée, quoi. De la messagerie privée de Facebook.
C'est ça,
il y avait eu un petit bug, ils avaient peut-être oublié. Ouais. Ça fait peur quand même, du coup. Enfin, tout fait peur, mine de rien.
Doug Brother is watching.
Mais justement, au niveau de ces données, et de ces données, mais aussi de toutes ces publications, c'est des données, finalement. La question de Fox, là, derrière, c'était, mais tiens, est-ce qu'ils peuvent les vendre? Est-ce que c'est vendable? Est-ce que c'est là-dessus qu'ils se font des sous, aussi? Et à qui, du coup?
Oui.
J'ai cru voir que dans le nouveau contrat de licence d'utilisateur final de Facebook... Les photos qu'on postait donc personnellement, on croit qu'on est en toute intimité et en tout secret avec ses copains, copines, ses amis. Facebook peut utiliser vos photos à des fins publicitaires.
Donc on peut se retrouver pour une pub pour Nutella, quoi.
Ça pourrait.
Par exemple.
Oui, voilà. Mais donc on leur donne la matière première pour effectivement faire des belles
pages. C'est quelque chose qui est très rigolo. Il y avait Mythique.
Le
truc de rencontre où tu payes en fait pour publier, pour leur donner ton contenu. Facebook est on va dire limite plus moral, parce que tu n'as pas besoin de payer pour leur donner ton contenu. Par contre, Mythique, c'est toi qui fournis le contenu. Quand tu vas voir le profil de quelqu'un, c'est lui qui a mis ces données là. C'est pas Mythique qui les a créés, même si sans doute ils créent des profils fantômes. Mais tu payes pour accéder à ce que tu mets, en fait.
Dingue.
Donc en plus, oui. Et on parlait tout à l'heure de Facebook, questions juridiques en Irlande et tout ça. Mais justement, au niveau juridique, il n'y a pas de loi, en fait, encore vraiment pour Internet. Ou est-ce qu'il y en a qui commencent à exister ou qui existent déjà?
Il y a plein de lois. Enfin, c'est pas un terrain de non-droit. Enfin, voilà, tu portes des propos xénophobes sur Internet, t'es coupable selon la loi Moreau, comme si tu les portais à la radio ou ailleurs.
Oui, mais enfin, vu le nombre encore pour l'instant de propos xénophobes sur, il y a pas une police d'Internet, quoi. Ou alors, franchement, il manque d'effectifs.
Ah oui,
peut-être heureusement.
On peut pas, on
après.
Peut... On peut pas.
C'est la question.
On peut pas surveiller tout le temps tout le monde. Et donc voilà, il y a des choses qui passent à travers, quoi. Enfin, mais en même temps, enfin, tous les feux rouges sont pas surveillés. Ça, la loi t'interdit pas de. T'interdit de traverser au rouge. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas un flic présent là que la loi change. Et sur Internet, c'est pareil. Enfin, tu peux pas dire que les études sont des études parce que, ouais, il y a des lois qui te l'interdisent. Et quand dans la pré-Charlie où il y a tout ce truc de incitation, comment c'était, enfin, incitation à djihad, terrorisme, mais voilà, enfin, il y a des propos portés sur Internet qui soudainement se trouvent poursuivis.
Mmh. Et oui, clairement, c'est enfin, selon moi, c'est pas souhaitable d'avoir une police d'internet. Il y a des polices, enfin, il y a des polices par état, donc il y a des états où il y a le droit de dire des choses, il y en a d'autres où pas, et ça se gère au cas par cas par un juge. Parce que si tu fais une police d'internet, il va falloir que la police d'internet surveille absolument tout le monde et prenne une mesure radicale très rapide sans passer par un juge, et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Où il y a vraiment l'absence d'un juge. Donc sur certains propos, certaines photos, la pédophilie typiquement, c'est quelque chose qui est assez peu, enfin, il n'y a pas de demi-mesure en pédophilie. Tu vois des enfants sur Internet, là y a, c'est assez radical, tu peux censurer. Par contre, des propos d'appel à la haine, des fois c'est un tout petit peu plus subtil que ça, et ça demande vraiment l'appréciation d'un juge, d'une personne. Donc voilà, quand quelqu'un veut porter plainte contre quelqu'un sur Internet, et ben ça se fait justement en lien avec la loi. C'est pas une zone de non-droit, c'est justement un endroit où la loi doit être présente. Elle l'est.
Oui, mais voilà ce qui se passe aussi. J'avais un petit rebond par rapport à Facebook, c'est que, entre guillemets, c'est leur loi, à partir du moment où c'est eux qui éditent, avec des juristes derrière, bien payés, etc., un contrat de licence d'utilisateur final ou des conditions générales d'utilisation, ils mettent au point leur loi, et quand on clique j'accepte, et ben voilà, on est, entre guillemets, pas sous leur juridiction, mais sous leur...
police privée.
Voilà, police privée. Et donc, du coup, si on combine ça avec... je crois qu'on aura un débat sur le Esperanza ici, à propos du TTIP.
Évidemment.
Il est question que des sociétés privées, commerciales, puissent faire des procès à des États. Donc, on passe du privé au public. Des États qui leur mettraient des bâtons dans les roues pour des questions d'environnement, social, etc., parce qu'il y aurait un manque à gagner. Donc, on peut très bien imaginer que Facebook, à un moment donné, fasse un procès à un pays qui veut leur dire « Attention, on va quand même respecter la vie privée des gens. Hein ». Ça nous semblerait une bonne utilisation du TTIP.
Du coup, quand même, avec Internet... Alors, avec Internet, on peut aller n'importe où. Là, Facebook, on consomme de l'américain, enfin, c'est une boîte américaine et tout ça. Mais on reste dans des juridictions nationales. Il n'y a pas de juridiction supranationale qui pourrait avoir des normes de décider que, voilà, enfin oui, qui pourrait décider de loi d'Internet. C'est une utopie.
Non, déjà, tu vois le bordel pour faire voter une loi au niveau d'un État, donc t'imagines au niveau d'un pays, enfin, au niveau du monde entier avec les différents.
Déjà, quand on voit le TTIP justement dont on parlait, les négociations sont déjà. Parce que voilà, ça ne fonctionne pas des deux côtés de la même façon. Mais alors, je ne sais pas moi, qu'on fasse un comité des sages qui édite des lois en disant voilà.
Ah non, l'angoisse, parce que le TTIP, c'est deux continents occidentaux, donc déjà c'est super compliqué, donc enfin sur le monde entier avec les différences de culture. Après, ça se tente, mais je pense qu'on peut bien rigoler.
J'avais dit que c'était un débat bisounours. Hein.
Parce que justement, ce serait pas le rôle d'une organisation comme l'ONU de réfléchir à ces questions-là, comme elles sont internationales.
C'est ce qu'on a au niveau instance internationale de plus proche de gouvernement mondial, c'est l'ONU, oui. Après, enfin, c'est tu vois le nombre de niveaux d'indirection entre tes idées que tu exprimes tous les 5 ans en mettant un bulletin de vote pour élire un gouvernement national dont certains membres vont siéger au Conseil de l'Europe, puis finalement, et bah, et puis à l'ONU, enfin, c'est bon, enfin.
Et puis. Objectivement, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une police de l'Internet ? Parce que quand on va sur Internet, franchement, c'est relativement compliqué d'acheter des armes, de la drogue, tomber sur des images pédophiles. Enfin, c'est super compliqué, quoi. Donc pour le moment, Internet se régule relativement bien. Après, sur des questions de vie privée, c'est toi qui signes un contrat. Donc c'est un contrat privé. Chacun est libre de signer, enfin de donner toutes ses photos à Facebook. Mais après, ouais, non, une police d'Internet, est-ce que c'est super souhaitable?
Non.
Mais elle se met en route. Hein. J'ai eu la loi renseignement en France. C'est les fournisseurs d'accès Internet qui sont obligés d'héberger une petite boîte noire qui va donc pouvoir surveiller ce que chaque client, à ce moment-là, va pouvoir ramener comme idée, comme info, ou poster comme idée, comme info. Et on est là. Les boîtes privées commerciales ont mis au point des outils de marketing hallucinants pour nous faire acheter des trucs, de la publicité. Et ces mêmes outils peuvent être utilisés, sont utilisés par les États qui, eux, veulent trouver des terroristes. Ou des pédocriminels, ou des machins, des vendeurs de drogue, etc. Enfin bon, chacun a sa petite bête.
Mais tant qu'ils cherchent les vrais méchants, ça va.
Voilà. Et qu'ils ne se trompent pas, surtout.
Mais
c'est hallucinant. Quand on est sur Internet maintenant, on est épié par les États qui essayent de trouver des dissidents, et épié par des grosses boîtes commerciales qui essayent de trouver notre petite faille commerciale. Là, et effectivement, si on est dans du logiciel propriétaire, si on est dans des ordinateurs de marque, Microsoft et Apple, on soutient un business plan, d'une certaine manière. On peut effectivement y injecter des logiciels libres qui fonctionnent plus sur une économie de partage. Mais au point de départ, à mon avis, si on veut un ordi et se sentir détendu, un petit peu, en tout cas déstressé, c'est de prendre l'option logiciel libre où on est sur un tout autre business plan. Et à mon avis, techniquement et politiquement maintenant, il y a intérêt à soutenir aussi cette économie du libre et du gratuit, enfin, entre guillemets.
Mais il y a un gros travail d'éducation aussi, d'apprentissage, mais en fait, c'est quoi Internet s'il n'y a pas de magie? Et on a évidemment toujours tendance à éclipser les questions du fonctionnement en se disant, ok, c'est cool, je peux parler à mes potes, mais c'est super intéressant et super important de se rendre compte de ce que ça implique techniquement un petit peu, toutes les données transitent par là et donc tous les acteurs au milieu peuvent voir les données. Enfin, ouais, il y a plein de trucs qu'on apprend en ayant un minimum de connaissances techniques sur la chose.
Mais d'ailleurs, pourquoi pas aussi directement chez les jeunes et dans les écoles enseigner le logiciel libre. Mais on a quand même l'impression encore que quand on parle de logiciel libre, quand j'ai des potes qui voient mon ordinateur, fait, oh, c'est quoi ça? Mais ça, c'est Linux. Oh ouais, encore un truc de geek ou un truc d'altermondialiste.
Mais ça fait peur surtout au niveau technique.
Mais voilà, ça fait peur. Et pourquoi est-ce qu'un Mac fait pas peur par rapport à un PC? Enfin, voilà, il y a aussi cette question-là du fait que c'est, voilà, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur encore maintenant?
Parce qu'ils n'ont pas de stratégie de communication énorme, peut-être. Donc on les connaît moins, donc on a peur. Enfin,
mais on empêche aussi ça. Puisque...
Mais on est voilà, dans une autre économie aussi. C'est qu'avant, dans l'économie matérielle, marchande, pour faire 200 voitures, eh ben, il fallait autant de tonnes d'acier, autant de tonnes de caoutchouc, etc. On pouvait le prévoir. Et il fallait ce matériel pour faire chaque voiture. Dans l'économie du numérique, on fait des copies. Donc une fois que le Windows est au point, on le copie sur un DVD. Un DVD, ça coûte 23 centimes. Et ils vendent ça 149 euros. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une charge, ils font un paquet de bénéfices qui leur permettent de faire de la com et de faire du lobbying aussi après. La COCOF à Bruxelles fonctionnait en logiciel libre depuis une dizaine d'années. Pour des raisons effectivement économiques, c'est souvent gratuit. Et on ne paye que les machines, on ne paye pas de logiciel, on ne paye pas de droit d'utiliser un programme. Ben, la COCOF, cette année, est repassée en Windows.
Ah bon?
Ah oui, c'était un petit tollé. Je ne sais pas si on avait suivi ça à l'époque. Et on ne comprend pas pourquoi. On sait comment. Le lobbying de Microsoft est assez puissant. Raison avancée par Madame la ministre de l'Affaire, c'est que la conversation avec le fédéral, qui lui est en Microsoft, devenait compliqué. Oups. Voilà.
Donc voilà, les problèmes communautaires en Belgique sont à cause du logiciel libre, voilà. Du conflit entre le logiciel libre et Microsoft. Ben voilà, on a tout compris en fait. Tout compris.
Voilà. Moi j'avais une petite question. Est-ce que justement, là on parlait un petit peu d'éducation au web et tout, c'est vrai qu'on n'apprend pas vraiment à l'utiliser, on l'utilise parce que c'est facile, tout est fait pour. Est-ce qu'il y aurait un endroit où on pourrait trouver des infos ou des vidéos, je ne sais pas, sur les bonnes pratiques ou les pratiques anonymes ou...
Mais une recherche à faire, en anglais c'est un LUG, Linux User Group, en français c'est un GUL, un groupe d'utilisateurs Linux, et il y en a dans toutes les villes. Il y en a un à Bruxelles, à Namur, à Liège, à Boussu, à Arlon, enfin pour la francophonie belge, mais vous voyez que tout près de chez vous, il y a une meute de pingouins qui vous attendent et qui sont là pour vous, effectivement, vous donner réponse à vos questions et un petit coup de pouce pour l'installer. Enfin, d'abord, regardez à quoi ça ressemble pour ne plus avoir peur. Mmh. C'est vrai que ça fout les boules, hein, des pingouins qui ont un grand sourire. Mmh. C'est, voilà. Donc voilà, oui.
Mais après, je ne connais pas de ressources pédagogiques généralistes sur Internet, ce que c'est, comment ça marche. C'est court. Dont tu parlais, enfin, je ne connais pas de support pédagogique encore qui pourrait l'aider, mais enfin, ce serait super chouette.
Hein. Léa Linux est un site qui...
En partie. Un truc plus général, sur les enjeux numériques général. Quoi.
Mais voilà, mais donc le logiciel libre, la solution pour demain. Et voilà, avec ce problème que ça fait encore peur. Et bon, petit exemple, j'ai acheté un disque dur externe. Je suis sous Linux. Et ben, il a fallu 3 geeks de Linux qui parviennent à le faire fonctionner. Ouais. Non, mais voilà. Et alors, sur le mode d'emploi d'un autre que j'avais acheté, il était marqué clairement si vous êtes sous Linux, eh bien, contactez immédiatement votre, je sais plus quoi,
administrateur.
Et, okay. en même temps, ce qui prouve la même chose, c'est que dans la pièce à côté où on fait la prod de la radio,
il faut peut-être reculer un peu. Changer de micro. Il est fatigué. Donc, plus, dans la pièce à côté, donc on fonctionne. Peut-être changer de micro.
Le sel. Merci, Fred.
C'est Microsoft qui nous.
Ouais, non, mais
la censure.
Voilà, ça marche là ?
Oui.
Ok. Donc, le seul ordinateur avec lequel on a encore des problèmes par rapport. Au fonctionnement de la prod, c'est un ordinateur sous Windows, parce que finalement la connaissance, de manière très microcosmique, la connaissance informatique dans la pièce d'à côté est centrée sur les logiciels libres. Et finalement, ça galérait un peu avec ce disque dur.
Oui, ben voilà, c'est un exemple.
Mais il y a des galères techniques qui existent encore, mais c'est sur les Windows que personne ne connaît. Et donc, exactement de la même manière, on a des problèmes avec des logiciels libres, parce que donc, autour de soi, il y a moins de personnes.
Et
puis,
on ne va pas se mentir, ça peut être compliqué. Clairement, il y a des soucis, il y a toujours des petits ajustements à faire. Et tout de suite, on va dire, c'est la faute du logiciel libre. Non, c'est la faute des logiciels propriétaires qui n'ouvrent pas leur code pour que justement, ce soit possible de les utiliser sur du matériel libre. Le libre, il est si tu formates ta clé dans un format libre, si tu fais passer des chansons sur un format libre, ce sera lisible par tout le monde, par tous les systèmes. À l'inverse, si tu enregistres ton son sur un format pas libre, il sera difficilement lu par du logiciel libre, parce que justement, ils ont fait tout pour que le logiciel libre ne puisse pas le lire.
Ouais, à côté de ça, l'OGG, qui est quand même un format libre au niveau son, au niveau audio, n'est pas lisible sur iTunes, par exemple.
Ah, c'est dommage.
Oui, mais c'est marrant. Okay, donc, comme s'il y avait un blocage, quoi. Ouais.
Alors, dans le monde courant, on utilise facilement des normes ISO, hein, International Standard Organization. Donc, il y a des normes ISO pour du PVC, du double vitrage. Un industriel qui respecte ce cahier de charge, qui est discuté dans le sens du bon sens, apristi. Il y a des normes ISO pour l'informatique aussi, pour le monde des ordinateurs. Et on a des documents libres, on a des ouverts, libres et ouverts, on va dire comme ça, des formats de son OGG libres et ouverts. Voilà, un programmeur qui respecte ce code, qui respecte cette norme ISO, arrive au même bon résultat qu'un entrepreneur qui s'occupe de... Voilà. Donc c'est dommage que ces grosses boîtes se foutent complètement de ces normes ISO. Si elles les respectaient un petit peu, on vivrait dans un monde meilleur. Pour revenir à ton... Petit coup bisounours.
Voilà. Et bien, les bisounours, je pense que là, on est à la fin de ce débat. Il est 15h30 déjà.
Yes. Voilà, donc venez nombreux
où est-ce qu'il faut venir
au village des possibles. On est dans le fond, à droite, dans un superbe conteneur. Et voilà, donc avant de discuter logiciel libre, on va parler licence libre, art libre, gros calibre, petit calibre.
Vivre libre, genre tu fais une recette de cuisine, tu rajoutes un truc dessus, ben, tu la publies, tu la partages, comme ça tout le monde peut faire la même recette que toi, voire même l'augmenter. Ouais, même la cuisine peut être libre.
Voilà, l'économie de partage.
Et sinon, donc, on vous retrouve BXLUG pour Bruxelles, tous les LUG en Belgique francophone, tu disais, voilà, donc Namur, Boussu, Liège.
Voilà, il y a interlug.be voilà, où on peut effectivement trouver les coordonnées et l'agenda de proximité si on a envie de passer à de l'informatique libre.
Et puis à Belly. Donc là, je suppose qu'il y a .be, et là, on trouve, c'est des infos, c'est, on peut, c'est un réseau, c'est un collectif.
C'est une association d'associations.
D'accord, c'est une plateforme.
Voilà, une plateforme, effectivement, dans promotion du libre, je dis même dans les administrations, le open data, ce genre de choses-là. On y veille, on y travaille.
Et Fred, côté Radio Esperanza.
Radio.esperanza.be.
Et c'est tout en libre.
Ouais, c'est tout en libre, au maximum.
Au maximum. Bah, tout à fait. On est libre sur Radio Esperanza et puis on reparlera d'Internet, d'informatique et tout ça ce soir. Manon et Leslie.
Avec The Pirate Bay, qui sont aussi AFK, Away From Keyboard. Et donc on disséquera ce procès de trois Suédois qui sont à l'origine de Pirate Bay et qui ont eu des grosses... condamnation, en tout cas des
on comprend du coup qu'ils sont loin de leur clavier s'ils ont eu des condamnations.
Ouais, là ils sont très très loin. Là en ce moment ils sont au Vietnam, au Cambodge et puis dans autres lieux secrets. Tout ça ce soir à 21h30 pour Il n'y a pas que la musique.
Sur Radio Esperanza.
Ouais. Exactement.
Libre.
Sylvain, merci beaucoup pour cette technique. Merci à nos invités. Donc, Fred pour Radio Esperanza, Fred Dux et Camille. Et donc, oui, voilà, Sylvain à la technique et puis tous les gens à côté qui font que ça fonctionne. Voilà, le festival ouvre, on l'entend. Merci beaucoup.
Et voilà, et donc là, on va vous laisser en compagnie de Dr. Crapula avec la chanson Viva la Planeta que vous pourrez retrouver à 17h30 sur la scène Côté Court, un rock alternatif latino qui fait penser et danser. A tout à l'heure.
Viva la mata, la naturaleza. Un mundo sin hambre y también sin pobreza. Viva ser revolucionario. Disfrutar de la vida sin ser millonario. Vivan los atercios y viva Manu. Me gusta la vida y me gustas tú. Que viva la vida. Viva. Que viva la gente. Viva. Que los animales vivan. Y viva el planeta. Viva. Que viva la vida.
Esperanza. C'est pas seulement Afloref, c'est aussi
Radiocampus.be,
Run.be,
48FM.com
et Radiopanique.org.
To end our fight, let's dance our way into the light. We never saw inside. Love is not what has failed. Why can't we both be saved for the old games we've played? I've already paid. Stranger.
Le jardin des autochtones.
Tu peux marcher la tête haute. Pauvre con. Tous tes amis sont unanimes, qui te tiennent sans restriction. Pour celui qui est légitime. Tu es auréolé car même les cons que l'on sait les plus cons.
Et voilà, on est mercredi, il est 16h24 et je suis du côté de Radio Bistrot et je suis avec Afid. Salut Afid.
Salut Ludo, salut tous les amis.
Tu vas bien?
Bah, un peu fatigué, donc on est au deuxième jour de montage. Ce qui compense, c'est qu'on avance super bien, on est super content, on est dans nos échéances.
Je vois ça, hein, tout est quasi monté, on va dire.
Bah ouais, c'est 5e édition, donc on est un peu drillé. Hein. Chacun sait ce qu'il doit faire, il n'y a pas d'ordre à donner, on ne se concerte pas, on n'a pas fait des réunions de préparation, on n'a pas fait des briefings, etc. C'est pas trop notre genre, nous c'est plutôt un peu rock'n'roll. Bon voilà, on sait bien qu'il faut faire ça, et voilà, quand on a une équipe, une bonne équipe, voilà.
Et vous aurez fini avant l'ouverture, j'imagine.
Oui, ben en fait, on vient 3 jours avant l'ouverture parce qu'on a 2 jours de montage. En 2 jours, c'est fait. Et puis, 1 jour de peaufinage et de drillage, en gros. Et puis, de peaufinage, drillage. Et puis, voilà. Et puis, le soir, on se fait un spaghetti, un couscous, paramètres. Et puis, comme ça, on termine assez tôt et on est en forme pour le lendemain, quoi.
Magnifique.
On se repose musculairement. Mais on va pas se reposer pour autant, mais... musculairement, voilà, on se repose un peu et voilà.
Dis-moi un petit peu pour nos auditeurs qui se situent un petit peu. Radio Bistrot, c'est une radio ou c'est un bistrot, c'est quoi?
Non, c'est Radio Bistrot, c'est en gros c'est le son des bistrots. Donc c'est le son des bistrots et l'ambiance des bistrots. Donc on a grandi, on a arrêté l'école à 14 ans et alors on était on a directement travaillé de ce qu'on savait faire, donc tirer des bières. Et donc voilà, on mettait un peu de l'ambiance, puis de la musique, puis de fur et à mesure, ben, on mettait de l'ambiance dans les bistrots, donc la musique un peu rock'n'roll, musette, populaire, festive, ambiance feutrée avec les verres qui teintent et de la fumée au fond, voilà. Donc Radio Bistrot, c'est le son des bistrots et c'est devenu un concept, c'est un collectif. Et cette année, la particularité, c'est qu'on va faire un truc un peu... pas que de mettre de la musique, pas que faire danser les gens, donc pas que discothèque en plein air, donc il y aura ça aussi, mais on va faire une ambiance un peu circus cette fois-ci. Donc je m'explique, il y aura Psoman qui va faire du live paint, donc il va faire de la peinture en direct, donc bien sûr il va participer à la déco en amont, et on a un magicien qui va venir, un vrai magicien, Arthur William, donc c'est tous des potes de Liège. Il y aura les Hello Girls qui vont venir faire des t-shirts en live, donc tout à l'heure. Les jeux, donc il y aura des jeux, donc ça pour la journée, il y aura des jeux pour enfants, etc. Et alors, bien sûr, le côté un peu circus, familial, il y aura... on descend avec notre cuisine, nos boissons, etc. Donc, bien sûr, qui ne sortent pas dans le site. Et alors, on mange en famille, pendant...